La gracilaire, Gracilaria verrucosa, algue rouge marine dont on extrait l'agave, utilisée comme gélifiant, appartient à l'ordre des Gracilariales et à la famille des Gracilariacées. Sa répartition mondiale est comprise entre les parallèles 65 degrés nord et 45 degrés sud. Les environs du Cap Griné dans la Manche, l'île d'Oléron dans l'Atlantique et des bassins d'aquaculture à Marennes en Charente-Maritime ont été choisis comme stations d'étude. Au Cap Griné, la Gracilaire occupe la base de l'étage médio-littoral sur les estrans rocheux de mode battu. Elle est localisée dans les cuvettes ensablées des sites abrités. Depuis la zone des laminaires jusqu'au sommet de la zone à Fucus serratus, en compagnie d'ulves, de céramiums et de polysiphonia. La flore épiphyte des gracilaires comporte différents genres d'algues vertes, comme Enteromorpha et Ulva, et plusieurs espèces d'algues rouges, du genre céramium. Dans la faune associée, des individus juvéniles de moules, le sélentéré Halicklistus et le bryozoaire Electra pilosa utilisent la gracilaire comme support de fixation. Des crustacés brouteurs, les idotés, se nourrissent à ses dépens. À Oléron, au lieu dit la pointe de Chocre, les populations de gracilaires ont colonisé une grande dalle rocheuse creusée de cuvettes ensablées. Les algues, situées assez haut sur l'estran, atteignent la zone des patelles. Quelques rares populations dépassent même leur niveau. Mais on peut les trouver ailleurs que sur l'estran. Elles se sont installées, par exemple, sur le radier d'une écluse qui régit l'alimentation en eau de mer d'une ferme aquacole. Dans des bassins d'aquaculture. Et même sur les filets destinés à la protection des palourdes. La gracilaire comporte un disque de fixation pérenne, de 20 à 40 mm de diamètre, à partir duquel se développent une centaine de frondes cylindriques, plus ou moins ramifiées, de 0,3 à 2 mm de diamètre. Ces frondes atteignent 2 mètres quand les conditions sont très favorables, mais leur taille moyenne est de l'ordre du mètre. L'aspect des gracilaires varie au cours des saisons. Sur les côtes de France, la longueur des axes est minimale en avril-mai. L'allongement des frondes est continu de juin à septembre, en réponse à l'élévation de la température et à l'augmentation de l'énergie lumineuse. À partir d'octobre, l'extrémité des talles se nécrose. Les gracilaires prennent une couleur verdâtre, deviennent translucides et se rompent. Ce phénomène se poursuit durant toute la mauvaise saison. Les tempêtes hivernales accélèrent le raccourcissement. Une grande partie de l'appareil végétatif est réduite à l'état d'épave. Au printemps suivant, il ne restera que quelques centimètres de la base des frondes. La reproduction a lieu de juillet à décembre, avec un maximum en septembre. Dans les populations de gracilaires cohabitent trois catégories d'individus, des haploïdes mâles, des haploïdes femelles et des diploïdes. Quel que soit l'échantillon, les coupes de talles montrent, de l'extérieur vers l'intérieur, une couche de cellules corticales, de section rectangulaire, en disposition presque palissadique, fortement pigmentée, à nombre plastes pariétaux. deux à trois couches de cellules sous-corticales, de forme variable, plus ou moins pigmentées. Plusieurs couches de cellules médulaires, à contour polygonal, peu pigmentées, très vacuolisées. À proximité du disque, le nombre et la taille des cellules médulaires diminuent. Le nombre des couches corticales augmente. Malgré quelques différences morphologiques, on ne peut distinguer sexe et génération que par les organes de reproduction. Ainsi, les thalles mâles ont un grand disque et des frondes courtes et ramifiées. Celles-ci sont percées, à maturité, de pores allongés. Ces pores, plus apparents en vue microscopique superficielle, donnent accès à l'organe mâle, creusé dans la périphérie du thalle. Sur le thalle femelle, qui présente un disque plus petit et des frondes plus longues, moins ramifiées que celles du mâle, il existe de petites protubérances d'un millimètre de diamètre, les cystocarpes. Ils résultent du développement des procarpes après fécondation. Ces excroissances se répartissent tout au long de la fronde, à l'exception de sa partie basale pérenne. Si le nom de genre de la gracilaire évoque l'aspect gracile de la fronde, le nom d'espèce verrucosa souligne la présence de ces verrues. Sur la coupe d'un cystocarpe, on distingue un petit massif enfermé dans une enveloppe saillant sur le thalle femelle. Les individus diploïdes ont un grand disque, des frondes longues et peu ramifiées comme celles des femelles. Ils portent à maturité de petites taches rouges sombres ou claires. En vue de surface, les taches sombres correspondent à des spores et les taches claires à des orifices de sortie. La coupe transversale dans un diploïde montre que les spores sont disposés par quatre à la périphérie du thalle. Ces individus sont des tétrasporophytes. Les végétaux se reproduisent selon trois types de biocycles. Un cycle haplodiplophasique, au cours duquel se succèdent deux sortes d'individus, les uns haploïdes, figurés en bleu, les autres diploïdes, figurés en rouge. Un cycle haplophasique, ne comportant qu'un seul type d'individu haploïde, la phase diploïde se réduisant aux zygotes. Et un cycle diplophasique, avec un individu diploïde, la phase haploïde se limitant aux gamètes. Dans le cas de la gracilaire, la reproduction s'effectue selon un cycle au cours duquel se succèdent une phase haploïde représentée par deux types d'individus et une phase diploïde. Le gamétophyte mâle haploïde porte des cryptes tapissées de cellules basales à l'origine des cellules mères des spermatocystes. À maturité, elle libère des spermaties sphériques, non pigmentées et dépourvues d'appareil locomoteur. Le gamétophyte femelle porte des organes sexuels difficiles à observer, les rameaux carpogoniaux. Chacun d'entre eux comprend une cellule support, une cellule du rameau, un carpogone, la cellule fertile, surmonté d'un trichogyne, et un à deux rameaux stériles qui, associés au carpogone, forment le procarpe. La fécondation est une trichogamie. Il en résulte un zygote qui établit des connexions avec les cellules haploïdes voisines pour former une cellule de fusion. Ce zygote se multiplie par mitoses successives et donne un gonimoblaste. Simultanément, les cellules corticales et sous-corticales du gamétophyte femelle prolifèrent et forment une enveloppe protectrice haploïde, le péricarpe, qui communique avec le gonimoblaste par les filaments nourriciers. Le gonimoblaste, 15 à 20 jours après la fécondation, va donner naissance à des carposporocystes, chacun d'entre eux libérant une carpospore diploïde. Ces carpospores s'accumulent dans la cavité péricarpique avant d'être expulsés dans du mucilage par le carpostome. Cette partie du cycle correspond au carposporophyte. Les spores diploïdes donnent naissance à des tétrasporophytes. Les tétrasporocystes se forment à partir d'une cellule mère de la couche corticale qui augmente de taille. Ils sont le siège d'une méiose à l'origine de tétraspores haploïdes. À maturité, elles sont libérées ensemble et se séparent après quelques secondes. Elles donneront naissance à autant de gamétophytes mâles que de gamétophytes femelles. Un tel type de cycle est qualifié de trigénétique. Il comporte trois générations, gamétophytes, carposporophytes, tétrasporophytes. Haplodiplophasique, deux phases d'importance égale se succèdent, haploïde et diploïde. Et isomorphe, le gamétophyte est identique au tétrasporophyte. Les tétraspores haploïdes, issus de méiose, et les carpospores diploïdes, issus de mitose, sont les seuls agents de dissémination des individus. Libérées, elles dérivent passivement au gré du courant avant de tomber sur le fond. Leur paroi collante adhère au substrat. Ces spores, richement pourvus de plastes photosynthétiseurs, poursuivent immédiatement leur développement. Des divisions répétées conduisent, après environ 10 jours, à une masse globuleuse de quelques dizaines de micromètres de diamètre. Celle-ci s'étale progressivement sur le support, assurant une meilleure fixation de la plantule, qui prend un aspect discoïde. Quelques jours plus tard, se dresse sur le disque basal une ou plusieurs pousses. C'est le stade des frondes juvéniles. Elles s'accroissent en longueur et en épaisseur, et peu à peu s'édifie le thalle adulte. Mais quelles sont les modalités de sa construction ? L'observation de coupes semi-fines, colorées artificiellement au bleu azur, montre que, dans la région sommitale du disque, s'individualise une cellule particulière en pyramide renversée, la cellule apicale. Son fonctionnement marque un changement dans la morphogenèse du thalle, car elle permet le passage du stade prostré du disque au stade érigé de la fronde. Cette initiale singulière assure la croissance de la partie centrale du disque, qui se surélève progressivement, jusqu'à former, après une dizaine de jours, la fronde juvénile. Cette fronde comporte un filament axial primaire. Il engendre des filaments secondaires à l'origine des productions raméales tertiaires, porteuses elles-mêmes des quaternaires. L'ensemble demeure coalescent. Les cellules les plus périphériques, de petite taille, forment le cortex photoassimilateur. Les cellules les plus internes, de grande taille et vacuolisées, constituent la médulla. L'édification de la fronde adulte, bien que semblable à celle de la fronde juvénile, est toutefois marquée par l'activité segmentogène accrue d'initiales secondaires localisées dans l'apex. En l'absence du point végétatif primaire, l'activité segmentogène de l'apicale est relayée par les initiales secondaires et celles qui en dérivent. Elle joue un rôle majeur dans la morphogenèse des frondes tronquées ou blessées par les brouteurs ou par l'action mécanique de la houle. La multiplication végétative peut être provoquée expérimentalement par traumatisme des talles grâce à l'activité de ces initiales secondaires. Gracilaria est donc une hémiphanérophysée, puisque la pérennité d'un individu est assurée à la fois par le disque et par les capacités de régénération de la base des frondes. Par ses aptitudes particulières de reproduction, selon un cycle dans lequel coexistent deux types d'individus isomorphes, haploïdes et diploïdes, et en raison de sa large répartition géographique, Gracilaria verrucosa représente un bon modèle biologique pour étudier les problèmes posés par l'évolution de la diploïdie et pour comprendre comment un cycle haplo-diplophasique peut se maintenir face aux deux autres types de cycles.